Bonjour, cet épisode a été enregistré le 4 novembre 2010. Architect est un podcast sur les sujets d'architecture technique en français. Les épisodes d'une longueur de 20 minutes sont disponibles en audio, mais également en vidéo. L'adresse de référence est blogs au pluriel .msdn.com/architect. Vous y trouverez les liens pour vous abonner au podcast et ou voir les vidéos sur Channel 9. Je suis Benjamin Guinbertière, architecte en système d'information au sein de la division plateforme et écosystème.
Et je suis Thomas Comté, ingénieur architecte dans la même division des PE.
Très bien, aujourd'hui Thomas, nous allons parler agilité
Absolument.
avec comme invité notre collègue Xavier Warzé. Xavier, peux-tu te présenter?
Bonjour, je suis aussi architecte dans la division DPE et aussi en charge de l'agilité dans cette division.
D'accord, donc aujourd'hui en termes table des matières, on a prévu qu'est-ce que l'agilité, comment démêler les projets avec Scrum et Microsoft et l'agilité.
Un beau programme.
Un beau programme.
Superbe.
Nous espérons que cela vous intéressera.
Xavier, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où vient l'agilité?
Avec plaisir. L'agilité n'est pas un mouvement très récent. En 1986, l'article The New Program, excusez-moi, New Product Development Game, dans la Harvard Business Review, commençait déjà à proposer une alternative à un développement plutôt orienté processus, où on faisait chaque étape, spécification, développement, codage, test par exemple. Dans une approche agile, on va essayer de faire des petites actions, donc un peu de spécification, un peu de conception, un peu de développement, un peu de test, sur des petites itérations et très régulièrement faire le point avec le donneur d'ordre, les métiers, etc. Ce qui nous permet en fait d'avoir beaucoup plus, on va dire, d'agilité pour comprendre ce que l'on fait et pour qui.
Ok. Et peut-être en quelques mots, tu pourrais donner un peu les grands principes de l'agilité?
Alors, suite en fait à cet article, quelques années après, en 2001, le manifeste Agile a essayé de formaliser un peu différents principes, hein, d'agilité. Notamment, par exemple, favoriser l'échange entre les équipes, au sein d'une équipe, et plutôt que d'utiliser des processus et des outils. Alors, ça n'est
Ouais,
pas
moi, je
du.
suis plutôt processus et outils. Je suis un peu sceptique
Alors,
sur l'approche. Donc,
comme je disais, c'est effectivement, là, c'est favoriser, en fait.
ouais.
Donc, favoriser, ça ne veut pas dire on va oublier tout l'acquis en
D'accord.
ingénierie logicielle. Donc, notamment, tout ce qui va être ALM va devenir plutôt le moyen de réussir à faire d'agilité. Car il
D'accord.
y a maturité sur les outils, maturité sur les processus, mais on ne va pas se réduire à cela. On va essayer justement de remettre un peu l'humain au centre,
Ouais.
de travailler en collaboration, de bien comprendre ce qui nous est demandé.
Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut?
Alors, bien au contraire, on garde les mêmes, comme on l'a vu dans l'article Macron, l'article 86, on garde toujours les mêmes pratiques. Donc, on a toujours la spécification, de la conception, du développement, du codage et du test.
D'accord.
Mais en itérant, on va travailler en faisant un petit peu de chacune de ces pratiques. Donc, il faut encore à la rigueur être plus rigoureux pour être certain de compléter à chaque étape un document de spécification, de conception, ajouter des éléments
Mais
dans son application, par
moi,
exemple.
dans mes techniques traditionnelles, j'ai aussi des itérations. C'est quoi la différence?
On va accompagner le changement. C'est-à-dire
Ouais.
que les itérations habituellement vont consister à développer souvent des lots, quoi, un
Ouais.
lot fonctionnel, quoi, ou un lot technique. Là, on va essayer par petites touches d'adresser progressivement un périmètre connu techniquement ou fonctionnellement. Donc, par validation avec des équipes métiers, s'assurer en collaboration avec finalement notre donneur d'ordre
Ouais.
qu'on est dans la bonne direction et qu'on opère les bons choix techniques.
D'accord, donc on vérifie tout le temps avec le fonctionnel
On va
si.
essayer de faire des petits pas
D'accord.
et chaque petit pas ne pas revenir en arrière.
D'accord.
Voilà.
Ok, plutôt qu'une grande spec au début, quoi.
Voilà le fameux grand document de spécification, la cathédrale.
Oui, moi j'aime bien ça, moi.
Ah ben, c'est très beau, mais
Ah.
bon, ça peut générer plein de problèmes
Ouais, d'accord.
d'interprétation, même pour des personnes connaissant très bien le fonctionnel. on peut avoir des écarts au final si on laisse les
le
équipes
fameux
techniques
dessin de balançoire avec les différents
voilà partir tout seul dans leur coin.
D'accord. Donc j'imagine que ces grands principes après se mettent en pratique, on va dire par des.
Alors évidemment, l'approche agile, elle ne part pas de ex nihilo comme ça. Elle s'appuie sur un socle technique, un socle de pratiques techniques qu'on appelle souvent l'extreme programming. Ouais. Donc les pratiques bien connues d'intégration continue, de tests, hein, d'automatisation des tests justement, de refactoring, de documentation et d'amélioration progressive. Donc au niveau du code, du développement. Simplement, ces pratiques en elles-mêmes ne donnent pas un objectif suffisant pour guider les développements. C'est juste des bonnes pratiques. Il faut encore mettre en musique.
Il est bien les mettre en œuvre.
Voilà. Donc, peut-être qu'au niveau management, il nous faut un peu de méthode.
Donc, ça veut dire qu'il y a, dans l'équipe quelqu'un qui... Enfin, des personnes qui connaissent bien les mécanismes agiles et qui sont capables de revérifier si on est en dehors des clous ou si on... Parce que moi, dans mes techniques traditionnelles, entre guillemets, c'est presque écrit noir sur blanc. Ou alors, en tout cas, ça devient tellement connu que tout le monde sait comment faire. Ouais. Dans les méthodes agiles, comment ça se passe?
Alors, on va prendre en compte dans les méthodes agiles le côté contexte, car notre contexte peut changer énormément.
Ouais.
Donc, les processus, habituellement, ont tendance à ignorer quelque part le contexte. Systématiquement, on doit faire les mêmes choses. Ouais. Donc, c'est une approche un peu industrielle du développement qui est intéressante. Qui marche dans énormément de cas. Simplement, l'humain étant là dans le développement, on va rajouter sans arrêt des facteurs d'incertitude, d'interprétation, des problèmes de compréhension mutuelle, etc. Des problématiques tout bêtement de communication. Les itérations, c'est bien, sauf qu'on va se voir beaucoup plus souvent, donc on va interagir beaucoup plus souvent. Donc ça peut créer plein de malentendus. Donc la difficulté va être d'avoir des facilitateurs, des gens dont c'est un peu le métier, ça sera peut-être le nouveau rôle des chefs de projet tels qu'on les connaît, qui seront moins à préconiser des actions plutôt qu'à faciliter et coordonner le travail de l'équipe, mais en facilitant un peu...
Ce serait presque facilitateur de projet plutôt que chef
voilà,
de projet. Quoi.
Voilà, on a plus de l'auto-organisation dans une certaine mesure, il faut bien cadrer, effectivement. Ouais. Alors cadrer... au travers de quelques méthodes, ils commencent à émerger.
Oui, il y a une nouvelle technique. Par exemple, sur la planification, j'ai entendu parler du planning poker, des choses comme ça. Il y a vraiment des nouvelles façons, par exemple, de planifier les tâches, de les estimer,
tout à fait. C'est plutôt le côté exploiter les capacités des équipes, donc multi-compétences. Alors, plutôt que, quelque part, un chef de projet, quelqu'un ayant beaucoup d'expérience, de le charger, d'évaluer les charges pour toutes les tâches à réaliser. Le planning poker, c'est une pratique où, d'une façon collaborative, toute l'équipe va prendre un ensemble de tâches et évaluer en collaboration l'effort lié à une tâche. Et c'est intéressant parce qu'un testeur peut voir un angle assez différent pour une même tâche qu'un designer d'une interface graphique, etc. Voilà, donc un designer interface graphique sur une tâche peut se dire, tiens, il me faut 2 jours, et le testeur va peut-être dire, il faut peut-être 3 jours, parce qu'avec le test, il nous manque peut-être telle dimension, l'interface graphique sera peut-être plus dur à tester dans ce cas-là.
Ah oui, alors que dans mes techniques classiques, disons, c'est plutôt le chef de projet va voir le développeur en disant, tu penses qu'il te faut combien de temps, il multiplie par 3, il applique un ratio pour le test, et puis voilà quoi.
Voilà. Alors, il y a aussi le côté transparence. Du fait que chacun du fait qu'on évalue en collaboration, on arrive à une certaine transparence sur le pourquoi, du comment, de la tâche.
Les parties prenantes.
Et en approche agile, finalement, on va essayer d'affiner ces évaluations tous les jours. S'il reste encore du travail à faire sur une tâche.
D'accord. Et le commitment reste fort. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un dit... Enfin, ou quand l'équipe, parce que d'après ce que je comprends, c'est plutôt l'équipe qui se... commit, je suis désolé, je n'ai pas le terme en français, mais qui s'engage.
Qui s'engage, voilà.
Il est au moins aussi fort que dans mes techniques.
L'engagement, c'est d'humain à humain. Donc, on est dans un engagement qui est de collaboration.
D'accord.
On arrive à un autre niveau de collaboration. On n'est plus dans un processus qui est un peu froid, lequel on va dire chacun dans son côté, j'ai fait mon best effort sur le design dans mon coin, le testeur, j'ai fait mon best effort sur le test. au global, chacun a fait le best effort, mais on répond peut-être pas aux attentes du donneur d'ordre, du banquier, ouais, sur le produit ou un projet de système d'information, par exemple. Donc là, on est plus dans l'interaction dans l'équipe, entre personnes, et interaction aussi avec le donneur d'ordre, avec le client.
D'accord, donc on a un engagement, plutôt que dans les approches traditionnelles, on a un engagement en gros du chef de projet auprès du donneur d'ordre, et ensuite du développeur vis-à-vis du chef de projet, alors que là, c'est plutôt toute l'équipe qui est engagée auprès du donneur d'ordre. C'est voilà. Plutôt ça, enfin où...
Alors, on arrive, c'est un peu le... l'engagement qu'on essaye d'avoir, c'est plutôt que de faire une course de relais, on va avancer, ce qu'on appelle une avancée en mêlée, quoi, en fait. On va avancer en un pack, chacun est soudé dans l'équipe et on est dans la même, dans le même objectif. C'est un peu ce qu'on appelle en anglais Scrum, oui, hein, qui est la mêlée, et qui a donné d'ailleurs le nom à une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui.
Ah ouais, oui, c'est le Scrum, c'est la mêlée, d'accord.
C'est là qu'on arrive effectivement un peu aux différentes méthodes qui sont apparues, on va dire, pour mettre tout ça, concrétiser un peu tout ça.
Alors, effectivement, on a différentes méthodes qui sont apparues. Alors, méthode, encore une fois, entre guillemets, c'est un jeu de patterns agiles, en fait, qui essaye de guider, le nouvel arrivant sur ce sujet. Alors, différentes méthodes ont été proposées, DSDM, FDD, et on va aujourd'hui...
C'est quoi ces SDDM, FDD c'est...
Alors, en fait, ce sont des méthodes assez voisines, à implémentant les pratiques dont on a parlé, mais qui ont une histoire un peu différente. DSDM est plutôt d'origine anglaise. FDD plus lié au Lean à l'industrie. D'accord. Et Scrum que j'ai évoqué au travers du mot mêlée, hein, qui dit Scrum en anglais, est une des méthodes qui aujourd'hui a le succès le plus important pour plein de bonnes raisons. Scrum, on peut peut-être en parler.
On peut peut-être développer un petit peu, ça paraît être la méthode qu'elle vend en poupe.
Moi j'avais entendu parler de Scrum, mais pas des autres, donc autant aller sur le
plus
connu.
Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui Scrum est assez utilisé, et majoritairement, on peut le dire, utilisé pour le développement logiciel en mode agile, on va dire. Mm-hmm. Alors pourquoi ça fonctionne? Quelque part, Scrum a trouvé les bons patterns et les bonnes formules pour présenter l'agilité en termes de gestion de projet, on va dire, tout bêtement. On formalise plus ou moins ces besoins sous la forme d'un backlog dit de produit. Un backlog, ça va être une liste d'actions, une liste de une to-do list, hein, quelque part, mais où on va décrire...
Ça remplace mes bonnes vieilles specs, alors
Voilà, alors, quelque part...
Mon plan projet, moi je suis habitué à avoir un bon vieux
titres,
plan.
Ouais. Les grands titres, voilà.
Les grands titres,
voilà,
d'accord.
Ça remplace les grands titres. Sauf que, comme beaucoup, parfois, quand on réalise une spec, on a du mal à aller dans le détail dès le départ.
Ouais.
Alors on commence par ce qu'on connaît ou ce qu'on pense avoir bien compris. Alors, quelque part, Scrum favorise cette approche.
D'accord.
On va d'abord mettre dans son backlog des descriptions très générales.
Ouais.
On va travailler sur la prioritisation, qu'est-ce qui nous en paraît le plus important.
Et puis les dépendances aussi, j'imagine, comment est-ce que ça se gère? C'est quand on prend dans le backlog qu'on dit ça dépend d'autre chose, je ne le prends pas et j'attends d'avoir quelque chose de rien que je n'ai pas encore
On va plutôt prendre les grandes capacités donc qui elles-mêmes sont suffisamment générales pour qu'on n'aille pas gérer les dépendances quelque part directement.
Ouais.
Et dans le détail en fait de ces capacités, on va plutôt parler des usages détaillés d'une ou de plusieurs capacités, ce qu'on a appelé des user stories. Hein,
donc c'est mes use cases ça.
Alors les use cases, eux sont centrés plutôt sur des capacités fonctionnelles, on va dire.
D'accord.
Donc on va décliner toutes les possibilités.
Ouais.
Une user story, on peut croiser différentes capacités fonctionnelles.
Mm-hmm.
Ce qui va importer, c'est que l'usage soit cohérent d'un point de vue de l'utilisateur de votre produit. Alors, parfois, on peut avoir des badges, on peut avoir des éléments n'ayant pas du tout d'interface graphique, mais c'est un peu pareil. On va essayer de définir une transaction cohérente.
D'accord.
On va essayer de définir, on va dire, un intervalle d'utilisation cohérent. Alors, par rapport à cela, l'user story est encore d'un niveau de description très général. Donc, on va en prendre un certain nombre, et les mettre dans ce qu'on appelle un sprint, qui est une itération dans ce qu'on appelle. Alors, un sprint, c'est 2 à 4 semaines.
Ça... c'est assez court, c'est des, une alors, succession.
Voilà, l'idée c'est de sur vraiment. Alors justement, c'est encore. On revient peut-être ici au côté outillage, maturité de. Je viens du côté processus et outils. Il est important quand même d'avoir une certaine maturité, parce que sans cette maturité, on va être incapable de sortir au bout de 2 à 4 semaines. Un élément de logiciel démontrable à ses utilisateurs.
Chaque sprint, on a quelque chose qu'on peut les montrer à son donneur d'ordre, à son client.
Ben oui, comment faire le point?
Voilà, tous les mois, on fait une démo de quelque chose.
Au niveau métier, il nous faut bien parler le langage et, de son donneur d'ordre du métier.
D'accord.
Et le plus simple, quelque part, c'est de lui montrer un bout de code qui fonctionne, un bout d'appli, un bout de système d'information, quelque chose qui l'interpelle directement. À tous les niveaux, hein, fonctionnel, technique, interface graphique, etc.
D'accord.
Donc, pour faire ce genre de démonstration, il nous faut bien avoir l'intégration continue correctement utilisée, implémentée, les tests disponibles pour s'assurer.
Ça bénéficie beaucoup de tout ce qui est usine logicielle et toute
ce qu'on appelle aujourd'hui l'ALM,
l'application
Lifecycle Management.
Ouais.
Et cette partie-là est en fait très importante à mettre en place avant de démarrer des projets agiles, en tout cas le projet agile.
Mais alors on n'est pas toujours en train de demander à la MOA ou aux fonctionnels de tester le soft qu'on est en train de faire plutôt que de le faire soi-même dans son cas, dans son coin, et puis d'apporter un truc qui marche.
Alors, très bonne question. On parle souvent de la matrice de Marink qui montre qu'on a différents types de tests. Alors, les tests qu'on connaît bien, de performance, sécurité, etc. On a les tests qui sont les tests que les développeurs des équipes logicielles vont faire. C'est-à-dire, elles vont s'assurer qu'elles ont bien implémenté ce qu'elles ont compris des attentes. Et en fait, enfin, on a les tests dits d'acceptation, tests fonctionnels, qui eux, sont des tests qui correspondent plutôt à la mise en situation avec des équipes métiers. Et c'est elles qui vont dire oui ou non, je valide.
Ça, moi, c'est ma recette de 3 semaines, 1 mois avant la mise en prod.
Voilà. Mais on va essayer d'anticiper. On va essayer d'anticiper. Avec les itérations, on va les faire au fur et à mesure.
Mm-hmm.
Donc, on a une capacité au travers de ces différentes, on va dire, pré-recettes quelque part. Tous les fins de sprint, on va essayer de faire le point sur le delta de développement que l'on aura fait. Et à partir de là, on va être capable d'anticiper des problèmes d'écart fonctionnel, des problèmes.
Donc ça suppose quand même une très grande disponibilité des équipes fonctionnelles, puisqu'elles sont embêtées tout le temps.
Oui, mais quelque part, en prévenant dès le départ, par exemple, des comités projet, des comités de pilotage existent en général.
Oui.
Bon, ça nous permet simplement de dire faisons aussi le point avec une petite démonstration.
Oui.
Et regardons quel est votre retour sur les avancées des développements. Est-ce que cela vous convient, oui ou non? Alors, si c'est non, pour quelle raison?
Histoire de pouvoir changer de route assez rapidement plutôt que de...
Ne pas attendre
le
fameux effet tunnel dont on parle souvent, ou le côté crise dans le logiciel. En fait, ici, on a un moyen de faire beaucoup plus de retours et de se rencontrer beaucoup plus régulièrement pour s'assurer qu'on travaille bien en collaboration avec quelque chose de pas
capable.
Ce qui va faire le juge de paix, c'est le logiciel qui fonctionne devant nous plutôt que des documents ou des rapports qui sont certes importants, il faut les garder, mais qui ne suffisent plus.
Ah, vous êtes de la doc quand même ?
Alors, bien au contraire, les approches agiles demandent à la rigueur plus de rigueur. Puisqu'on n'est plus dans un cycle, un beau pipeline, où on fait une action, l'aspect, ensuite une autre pratique, spécifique, la conception, etc. Là, il va falloir faire un petit peu de chaque pratique, chaque itération.
Ouais.
Donc, ça va peut-être encore demander plus de discipline. Et donc, d'où le rôle important du chef de projet en termes de facilitation, pour pouvoir permettre réellement d'avoir une certaine dynamique dans ces projets.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Xavier, écoute, après cette courte présentation de l'agilité, parce que forcément on est un peu contraint par le temps, je te propose peut-être qu'on aborde un petit peu l'aspect Microsoft pour l'agilité, on va dire. Je sais qu'on a, des communautés très actives, dans lesquelles tu es très actif personnellement d'ailleurs.
Oui, alors Microsoft est impliqué dans différentes organisations, différentes associations. Donc on peut parler d'Institut Agile, hein, qui a été lancé cette année par Laurent Boisévy. Donc Microsoft en est membre. Microsoft en est membre parce qu'en fait, on se rend compte que l'agilité est un élément qui commence à intéresser beaucoup de nos comptes, hein, beaucoup d'organisations. Et il va falloir fixer un peu des références. Hein, donc l'Institut Agile va essayer de nous donner des références sur ce qu'on va définir comme étant pratique agile et tous les éléments associés, formation, séminaires, etc. Donc, ou des études sur l'adoption de l'agilité.
Ah oui, d'où le nom d'institut.
D'où le nom d'institut qui, justement, un peu comme certains instituts, Forrester, etc., va nous sortir des études faisant un peu l'état du marché aussi. Hein.
Et si on fait du Scrum, alors il paraît qu'il y a un user group, tu as entendu parler de ça?
Alors, oui, un petit peu, il faut bien l'avouer. Donc, j'ai la chance d'être le président du Scrum User Group. Hein. Donc, ce Scrum User Group, aujourd'hui, regroupe plus de 500 membres et essaye d'avoir une actualité mensuelle au travers de soirées régulières. Dans lesquelles on a des retours d'expérience, autant de personnes issues du logiciel, de la technique, que justement des utilisateurs finaux, donc dans les rôles justement de validateurs de nos développements dont on parlait en fin de sprint.
Il y a plutôt une bonne satisfaction ou les gens ils préfèrent revenir à des bonnes vieilles techniques?
Alors, oui, on pourrait penser. Effectivement, pourquoi avoir, on aurait 100% de réussite. Alors, je suis sûr que parfois des projets ont des difficultés, bien évidemment. Alors justement, ce type d'association, c'est un peu le moyen d'échanger sur les bonnes pratiques.
Ouais,
on a vu que l'agilité, c'est très ouvert, Scrum aussi, ce sont un jeu de patterns de base. Ce qui est important, c'est de partir de ces patterns de base et puis avancer et trouver en fait la meilleure façon de les mettre en place dans son contexte. Donc, ces associations permettent aussi d'échanger. On a eu des bons retours d'expérience pour l'instant. Je pense qu'on a plutôt envie de parler d'un bon retour d'expérience.
C'est vrai.
En général, c'est plus agréable. Mais parfois, je pense et j'espère peut-être avoir aussi des retours d'expérience sur des projets qui ont échoué. J'en ai déjà vu, notamment, on peut évoquer l'Agile Tour, hein, qui est aussi une organisation... qui met en place au niveau mondial un ensemble d'événements autour d'un même nom commercial, on pourrait dire, l'Agile Tour. Ça va des États-Unis en passant par la Chine. Donc, on a plusieurs villes en France. Et à ces Agile Tours, on a déjà vu des présentations sur des retours négatifs de l'utilisation d'agilité et pourquoi, comment, et on fait ce qu'on appelle des rétrospectives, hein, donc
faire
le point, des post-mortem,
Et alors il paraît qu'on a aussi quelques solutions chez nous pour...
Pourquoi Microsoft et l'agilité a priori enfin...
L'agilité est en train d'impacter effectivement le monde du logiciel, donc Microsoft aussi, dans ses pratiques, dans ses développements... on peut parler d'SQL Server, de Windows 7, Windows Phone peut-être.
On développe des logiciels.
Donc on développe énormément de logiciels. Mm-hmm. Différentes équipes vont utiliser, alors pas obligatoirement Scrum, des pratiques agiles, XP. Et on a aussi une offre qui commence à être beaucoup plus formalisée autour de Scrum, avec Visual Studio et Team Foundation Server 2010. Nous avons un template, un Scrum, qui a été mis au point à l'aide de Pixis, notamment, en partenaire.
Ah oui, parce que moi, j'avais vu MSF Force MMI et puis voir MSF Fragile, quand on...
Alors, on peut adapter TFS à différents types, différents
TFS,
modèles
peut aider, on peut utiliser des templates qui vont aider à organiser des projets en fonction de différentes, comme tu dis, méthodes, différentes normes standards. Hein. Donc, CMMI est une approche.
On est plutôt dans le
process.
Dans le formel, dans le process.
Mais qui est très intéressant comme cible. Hein. Il ne faut surtout pas, encore une fois, oublier ces
acquis. Il y a des cas où c'est adapté.
Il faut vraiment les garder. Ouais. L'agilité, donc MSF Agile a anticipé un peu l'arrivée de Scrum. Ouais.
D'accord, c'était une méthode agile, entre guillemets.
Un jeu de pratique aussi très très proche, on va dire peut-être que le vocabulaire s'écartait quelques pratiques. Ouais. Là, l'avantage, c'est qu'on a un template vraiment.
Scrum a tout un vocabulaire un peu. On a parlé des user stories, il y a des Scrum Master, il y a des Sprint.
Voilà. Ça, c'est des work items dans TFS, par exemple.
Voilà, les work items, en fait, on a deux types de work items. Les work items type user story ou type tâche,
ouais.
Qui correspondent réellement au langage de Scrum.
D'accord.
Donc, voilà, quelqu'un, en général, qui sera formé à Scrum, formé à nos outils, va arriver directement avec ce template et pourra appliquer Scrum directement.
Chez lui,
il y aura ses sprints, etc. Donc c'est un avantage en termes de facilité d'adoption quoi, au départ.
Ok, tu as mentionné Pixis, donc on a ce nombre de partenaires comme ça qui font des extensions également à Visual Studio, à TFS.
Oui, alors Pixis, c'est intéressant, ils ont fait un plugin TFS, donc un plugin, une extension donc ici qui concerne l'interface graphique, qui permet en fait de manipuler, alors c'est Work Item, donc manipuler plutôt ces tâches, on parle plutôt de post-it quand on est dans l'agilité classiquement, avec un grand mur où on met les actions à faire en cours et terminées. Ou avec Kanban, ça peut s'élargir. Donc Pixis propose, au travers de Urban Turtle, qui est le plugin TFS, une approche...
Une tortue de ville, quoi.
Voilà, une tortue urbaine qui va permettre de manipuler ces post-it. Imaginons un grand écran en mode touch, on va pouvoir aussi manipuler ces post-it virtuels sur cet écran. C'est intéressant, puisque l'agilité... insiste beaucoup sur ce côté collaboration au travers d'un plan de travail commun. On va le retrouver. L'avantage avec Urban Turtle, c'est qu'une fois qu'on a fait évoluer ces post-it, on va valider un peu une phase, je dirais, de ce qu'on appelle la mêlée quotidienne, que l'on fait tous les jours dans un sprint.
D'accord.
Et on va retrouver directement les tâches dans l'environnement de chaque développeur, les développeurs ont la liste de tâches à faire.
D'accord, donc on garde à la fois le côté interactif et collaboration à plusieurs avec l'écran tactile d'un monde analogique et papier et post-it, et puis en même temps le côté numérique lié au plugin qui fait que c'est directement dans TFS.
Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est un moyen de profiter de la maturité des solutions. Outils et processus, on va vraiment ne pas négliger cette partie.
D'accord.
Mais justement, en travers de ces plugins, profiter réellement de ces pratiques.
On a aussi des interactions comme ça avec la table surface, je crois.
Oui, alors je me suis amusé à faire un tour dans Agile Tour justement avec la table surface.
Ouais.
Qui est une déclinaison.
C'était avec ton vélo et puis la table surface
sur le porte-bagages.
T'as des photos?
Voilà. alors, on va voir quelques vidéos sur la Agile Tour. Effectivement, et c'est vrai que la table surface, là, elle va permettre une collaboration. On peut aller justement jusqu'à 5, 7 autour de la table et travailler ensemble autour des post-it. Donc, d'expérience, pendant les démonstrations que j'ai pu faire, les différents utilisateurs oublient totalement que derrière on a TFS, donc qu'on va pouvoir valider et envoyer en TFS. On est vraiment dans le plan de travail.
Ouais. Voilà. Et l'outil se fait oublier.
On est dans l'expérience, l'usage.
Ouais.
Et donc, encore une fois, on profite du meilleur des deux mondes, les pratiques agiles et l'outillage à l'état de l'art.
D'accord.
Bon, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut en apprendre plus? On a quelques événements sur le sujet. J'ai l'impression qu'on a les Tech Days qui arrivent en février.
Alors oui, les Tech Days, où on pourra aussi voir cette démonstration de table surface.
Il faut venir aux Tech Days.
Voilà, donc les Tech Days, début février, autour du 10 février.
Oui,
un
peu avant.
Ou un peu avant, maintenant. Aussi, alors, certains événements autour de l'ALM, plus spécifiquement, on a vu que c'était important. Notamment, là, nous sommes le 4 novembre. Ce soir est lancé le ALM User Group français, au centre de conférence de Microsoft, ici à Mouillot, justement. Et on a aussi les différentes manifestations autour de Scrum. Scrum User Group fera aussi en mars un événement d'un ou deux jours qui sera important. Et la conférence Agile, qui est un peu la conférence sur l'agilité en France, fin mai, qui a lieu chaque année.
On retrouvera tous les liens dans les ressources.
Voilà, c'est tout pour cette fois. Retrouvez les liens sur blogs.msdn.com/architech, A-R-C-H-I-T-E-C-H. Au revoir.
Au revoir.
Et à la prochaine fois.